patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand, bonjour chers auditeurs de spiritualité et patrimoine, ou patrimoine et spiritualité.
Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on continue donc l'ouvrage toujours de Gilles Lade qui s'intitule « Conte des mille collines » avec un poème qui s'intitule comment ?
Alors aujourd'hui, nous allons visiter les Amis de Providence.
Parfait, allons-y alors.
Lucie avait 60 ans. Et elle vivait seule depuis qu'on lui avait annoncé la mort subite de son mari lors d'un déplacement près de Cahors. Il était devenu commercial, presque par mégarde, de même qu'elle était femme au foyer, par fatalité et peut-être malchance. Son fils aîné avait annoncé sa venue au monde au moment où elle aurait dû suivre une formation d'institutrice, et par la suite, elle n'avait pas persisté. Mi-toulousaine, mi-quercinoise, elle s'était progressivement habituée à la vie à la campagne et la vallée du Célé lui apparaissait comme le lieu définitif de son existence. Sa maison se trouvait au bas d'une combe donnant directement sur la rivière. Elle avait l'impression que le soleil ne s'absentait jamais plus que quelques jours. Et de fait, les rochers rouges qui lui faisaient face captaient tellement la lumière qu'ils effaçaient les gris temporaires des collines et de l'atmosphère. De franc soleil en franc soleil, elle conservait une impression dominante de clarté, au point d'en oublier les brouillards et les pluies. Longtemps, Lucie avait connu la présence intermittente de son mari. Disons qu'il était là un jour sur deux en raison de son métier. Or, il avait pris sa retraite 6 mois avant son décès, période pendant laquelle ils avaient véritablement vécu l'un près de l'autre. Un vrai bonheur les animait, discret, un bonheur qui ne voulait pas dire son nom. Certes, son mari multipliait les petits déplacements, mais il était toujours là pour les repas, et ils passaient la soirée ensemble, même s'il disparaissait sans prévenir à certains moments. Comme la pêche, un peu de marche, un aller-retour au village, une conversation avec quelques voisins, eh bien, ils surgissaient aux 12 coups de midi et ils avaient le grand plaisir d'échanger sur tous les sujets au gré de leur humeur, de l'actualité publique et personnelle, de leur bouderie. De temps à autre, ils partaient en voyage, renouant ainsi avec leurs jeunes années. Ils repassaient parfois par des endroits visités, voilà plusieurs décennies. Ils s'exerçaient avec délices au dépaysement, d'autant plus exaltant qu'ils se sentaient liés à leur lieu de vie. Ils faisaient tardivement l'expérience de la vie commune, alors qu'ils avaient jusqu'alors suivi leur propre chemin, poussés par l'instinct de se fier d'abord à soi. Une pudique réserve les avait longtemps empêchés de se confier leurs sentiments intimes. Le bonheur qui les associait aujourd'hui les emportait sur des heures sereines. Une autre raison les avait écartés de cette félicité, l'éducation de leur fille et de leur fils. Le fils seul s'était marié, avait des enfants. C'en était en suivi une foule d'urgences quotidiennes, pratiques et éducatives. Désormais, ils découvraient qu'ils pouvaient passer des journées entières sans le moindre mouvement d'humeur, sans un véniel reproche. Ils allaient d'un coup égal sur un nouveau temps, le leur, comme sur une calme rivière, et chacun prenait la rame alternativement dans le silence de l'harmonie. Elle cueillait les fruits, ramassait les légumes, prenait soin des fleurs, alors qu'il portait une grande attention à l'arrosage et à la bonne pousse des plantes. Lorsque des voisins leur rendaient une petite visite, ils habitaient assez loin du bourg. C'est elle qui en concevait le plus de désagréments, comme si toute rupture du temps conjugal valait blessure, constituait une agression. À la mort de son mari, elle voulut que le corps soit ramené à la maison. Elle le veilla avec des voisins et se sentit privée d'une part d'elle-même. Son mari avait un beau visage de défunt. Il semblait partagé entre son désir de demeurer avec son épouse et celui de rejoindre véritablement l'au-delà. Le chagrin de Lucie se doublait d'un sentiment de faiblesse, comme si elle avait perdu son ancienne force de solitaire qui lui permettait de vivre centrée sur elle-même. Elle était devenue pleinement épouse, et cette mort lui en infligeait toutes les blessures. Elle eut la fierté de vouloir se retrouver seule, assez rapidement, sollicitant le départ de ses enfants et de ses voisins. Commencèrent alors les véritables jours du deuil, ces moments où la maison semble si vaste, tellement silencieuse, où certains souvenirs se font obsessionnels. Elle butait sur l'idée de la fatalité qui l'avait rendue veuve si tôt. Elle prenait conscience du fait qu'une stupide arrogance mêlée de froideur l'avait longtemps tenue à distance de son mari. Et elle regrettait d'avoir imprudemment congédié ceux qui voulaient l'aider dans cette épreuve. C'est alors que survint un hérisson. Il se tenait à l'angle de la porte d'entrée, juste à l'extérieur. Son attitude était intrigante et émouvante. Décontenancée, Lucie regarda à l'autre bout de la cuisine. C'est alors que le hérisson entra, avec l'agilité rapide des siens, et qu'il alla s'installer près du panier du chien. Il semblait vouloir rester là. Le chien ne réagissait pas. Il demeurait d'une indifférence et d'une sérénité totale. Lucie se pencha sur le hérisson. Elle constata qu'il ne se mettait pas en boule, que ses petits yeux la considéraient bien en face et sans crainte. Elle pensa un instant saisir ses gants de cuisinière et le mettre dehors, puis elle se ravisa et alla faire un peu de rangement dans la pièce d'à côté. Quand elle revint, elle vit que le hérisson allait et venait autour du coin dévolu au chien. Il semblait se repérer, vouloir rester. Lucie remit en place l'ancienne litière du chat et disposa une soucoupe pleine d'eau. Puis, elle se souvint que les hérissons mangeaient des sauterelles. Elle alla au bord du chemin en attraper quelques-unes avec des allures maladroites de pêcheur à la ligne débutant. Elle en disposa une dizaine près de la soucoupe. Elle alla ensuite s'asseoir un petit moment au jardin. Quand elle revint, les sauterelles avaient disparu, ainsi que le hérisson. Elle en conçut quelque tristesse. Ce soir-là fut assez terrible. Terrible comme peut l'être le temps ordinaire quand il se noircit de lui-même et qu'aux circonstances funestes s'ajoute une pesanteur de crépuscule. Lucie fut véritablement assaillie par un sentiment d'échec général. Elle se remémorait le repliement teinté d'amertume qui avait longtemps été le sien, y compris à l'égard de son mari, et le manque de cette douceur patiente à laquelle les enfants reconnaissaient immanquablement une mère. Lucie était donc au plus noir d'elle-même, et c'est en se condamnant implicitement qu'elle alla se coucher. Au matin, la lumière des rideaux était comme traversée de suie. Elle se leva, toute raide et sombre, ouvrit la porte du séjour et là, dans la luisance tout à coup merveilleuse du carrelage, elle vit deux hérissons évoluant paisiblement comme sur une pelouse. aucun signe de crainte ni de rétractation. Ils l'accompagnèrent vers la cuisine, lui firent comprendre qu'ils étaient ses compagnons. Un instant, Lucie se sentit devenir tout autre. Elle comprit qu'ils demeureraient là et elle se mit à prévoir pour eux une nourriture plus consistante et plus régulière. Elle ne parvenait plus à rejoindre ses préoccupations les plus sombres, tant ils trottinaient à ses côtés et diffusaient, par leur empressement, une sorte de vivacité et de joie qui était l'inverse exact de son accablement. Lorsqu'elle se mit à table ce jour-là, pour le déjeuner, ils vinrent à ses pieds, la frôlèrent comme l'auraient fait des chats et des chiens. Puis en début d'après-midi, ils disparurent. Il ne restait jamais plus d'une demi-journée sans lui rendre visite, et elle se rendit compte qu'il dormait tout près de la maison. Un mois plus tard, sa mère mourut. Elle avait choisi de demeurer à Toulouse, dans une petite maison près du cimetière de Pierre Cabade. Elle vivait en parfaite symbiose avec ses proches voisins. Elle ne demeura que 3 jours à l'hôpital, et comme ses amis s'étaient occupés d'elle jusqu'à la fin, Lucie avait été prévenue le dernier jour, mais n'était arrivée à Toulouse qu'après la mort de sa mère, Lucie se sentit dépossédée de sa disparition. Sa mère, qui n'avait pas pris de disposition particulière, fut inhumée dans le caveau familial, en présence de villageois et d'une délégation toulousaine éplorée. Lucie revint brisée à la maison, comme frappée de stupeur, presque absente à elle-même. Elle n'éluda pas les propositions de soutien, mais fit comprendre qu'elle voulait surtout rester seule. Les voisins convinrent entre eux d'une discrète présence. Lucie ne parvenait pas à faire le point. Elle avait beaucoup pleuré aux obsèques, et depuis elle faisait face à un vide accablant, pire qu'un amas de soucis. L'on était en septembre et il faisait très chaud. Le premier soir, en laissant les volets ouverts, elle implora un peu de vent. Au matin, alors qu'elle traversait le séjour pour rejoindre sa cuisine, elle le perçut comme un grattement sur la droite et, stupéfaite, elle vit se hâter le couple de hérissons suivi de 5 ou 6 petits. Son cœur bondit de gratitude. Les hérissons semblaient chercher leur gîte, leur domicile dans sa demeure. Elle les laissa vaquer à leur aise, comme des locataires et des amis. Toute sa vie se redéployait sur elle, avec la culpabilité de s'être retranchée derrière un rempart de froideur. Elle l'avait rompu in extremis avec son mari, mais elle avait découragé ses parents, jusqu'à ce qu'ils prennent leur distance. Était-ce une réponse de fierté à une blessure d'enfance ou d'adolescence? Que lui avait-il véritablement manqué? Elle tournait, elle retournait ces questions qui formaient spirale et remous. Un vaste isolement tombait en chape autour d'elle.
Chantal, je me permets de vous couper. On se retrouve très bientôt, oui, puisque le temps est déjà passé, pour la suite de ce conte, je le rappelle, qui s'intitule « Les amis de Providence », tiré donc du livre de Gilles Lade, « Conte des 1000 collines » aux éditions Tertium. Bonne continuation et à très bientôt, Chantal.
Eh bien, à très prochainement.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.